Le journal Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le mot territoire répété 25 fois, Jean Castex a insisté sur son envie de ressouder la France dans sa déclaration de politique générale hier à l'Assemblée. Ce matin, le chef du gouvernement sera entendu par le Sénat.
Le Premier ministre a annoncé vouloir créer des juges de proximité pour réprimer les incivilités du quotidien. L'Union syndicale des magistrats s'interroge.
Jean Castex et l'ardoise magique, c'est l'histoire que nous racontera Stéphane Robert dans son billet politique juste après ce journal.
Des pilotes de la compagnie aérienne EasyJet dénoncent la pression exercée sur eux par l'entreprise sur la question des arrêts maladie. Attention à ne pas jouer avec la sécurité des vols, prévient un syndicat.
La justice européenne a annulé une décision de la Commission. Elle demandait à Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande. Réaction à Dublin.
La France se fait discrète depuis le début des affrontements à Bamako. Paris a besoin de la stabilité au Mali pour lutter contre le terrorisme au Sahel, on vous explique.
Combien de livres dans votre valise cet été? Selon une étude, vous serez nombreux à en lire plus que d'habitude. Une envie qui pourrait être liée au confinement. Avec 345 voix pour, Jean Castex a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale hier soir. 177 députés ont voté contre, 43 se sont abstenus. Le nouveau Premier ministre a prononcé son discours de politique générale, assurant vouloir ressouder la France et peaufinant son image d'homme des territoires. Sur ce dernier point, les sénateurs sont plutôt séduits. C'est à leur tour d'entendre le chef du gouvernement. Il viendra devant eux à 10h ce matin, Anne Fauquemberg.
Il a été martelé plus d'une vingtaine de fois, ce mot de territoire, s'incarnant dans un futur droit à la différenciation qui marquerait une nouvelle étape de la décentralisation. Le sénateur Les Républicains, Hervé Marseille, est bien obligé de s'incliner.
C'est ce que demande depuis longtemps le Sénat. D'ailleurs, nous avons remis 50 propositions il y a quelques jours par la voix du président du Sénat, Gérard Larcher, au gouvernement. C'est une chose qui sonne sympathiquement aux oreilles des sénateurs.
Même soulagement du côté de la sénatrice socialiste Victoire Jasmin, élue de Guadeloupe.
On a bien vu que le gouvernement était vraiment en lévitation, j'ai souvent eu l'occasion de le dire. Aujourd'hui, avec l'actualité et avec l'implication des maires lors des différents épisodes malheureux qu'on a vus, eh bien on voit que ce gouvernement est en train de se remettre en question. Il est peut-être un peu trop tard, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire comme on dit.
Mais faudra-t-il encore faire? Le non-inscrit Philippe Adnot attend maintenant des actes. Lui qui boucle son dernier mandat et 31 ans de palais du Luxembourg ouvrira le débat ce matin sur le thème, je cite, « des clés de la réussite ».
C'est-à-dire être cohérent dans les actions, centré sur l'essentiel et que tout dans la vie est l'art de l'exécution et de ne pas se perdre dans des débats dont on sait que dans les 600 jours, ils ne seront pas aboutis.
Et pour ce sénateur, la priorité, ce n'est pas le projet de loi de bioéthique ou la réforme des retraites, c'est tout simplement l'économie et limiter les plaies à la rentrée.
Le débat au Sénat, lui, ne sera pas suivi d'un vote. Parmi les annonces hier faites par Jean Castex, arrêtons-nous sur la création des juges de proximité. Ils devraient être mis en place dans les territoires à partir de l'an prochain. Des magistrats nommés pour combattre ce que Jean Castex appelle les incivilités du quotidien. Mais cette idée n'est pas nouvelle. Les juges de proximité ont existé par le passé avant d'être supprimés. De quoi susciter l'incompréhension des syndicats de magistrats, Olivier Vogel.
Les insultes, les tags, les petits trafics ou la petite délinquance, c'est ce que le Premier ministre a appelé les incivilités du quotidien. Pour leur déclarer la guerre, Jean Castex a donc annoncé la création de juges de proximité, sauf que ces magistrats ont déjà existé, même s'ils ne jugeaient que les litiges dans les affaires civiles. Ces juges de proximité avaient été mis en place en 2002. À l'époque, ils étaient non professionnels et ils ont officiellement disparu 15 ans plus tard, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi les ressusciter? L'Union syndicale des magistrats est perplexe. Cécile Mamelin est membre du bureau national de l'USM.
On ne comprend pas pourquoi on veut rétablir les juges de proximité puisque ça fait à peine 3 ans, jour pour jour, qu'ils ont été supprimés. Et ils ont été remplacés par d'autres juges qu'on appelle les magistrats temporaires. Donc si c'est rajouté un nouveau juge, ça va complexifier l'organisation judiciaire. Donc on a un peu un effet yo-yo et un effet de complexité aussi qui ne va pas dans le sens d'une lisibilité pour le citoyen sur l'accès à la justice.
L'USM a aussi été choqué que le Premier ministre parle d'une forme d'impunité qui se serait installée faute de réponse judiciaire, car pour combattre ces incivilités du quotidien, le syndicat rappelle qu'il y a les délégués du procureur et un arsenal juridique suffisamment fourni, les amendes, les travaux d'intérêt général ou les stages de citoyenneté par exemple.
Autres annonces faites hier, l'arrivée d'un projet de loi pour lutter contre les séparatismes à la rentrée. Jean Castex estime que la laïcité est le fer de lance de la cohésion de la société. Le Premier ministre a aussi promis de faire de la lutte contre le chômage la priorité absolue des 18 prochains mois. Deux des quatre policiers mis en cause dans la mort de Cédric Chouvia à la suite d'un contrôle routier en janvier à Paris ont été mis en examen pour homicide involontaire d'après les informations de nos confrères de France Info. Cédric Chouvia, livreur en scooter, avait été victime d'un malaise cardiaque après avoir été plaqué au sol par trois policiers. American Airlines pourrait licencier jusqu'à 25 000 salariés à cause de la pandémie de Covid-19. Air France a déjà prévenu que 7 600 postes seraient supprimés. Les plans sociaux se multiplient dans les compagnies aériennes face à la chute du trafic mondial et EasyJet ne devrait pas y échapper. La deuxième compagnie à bas coût d'Europe va réduire ses effectifs d'un tiers, soit 4 500 postes en moins. À cela s'ajoute un management qui déplaît beaucoup aux pilotes. L'entreprise menacerait de licencier ceux qui seraient trop souvent en arrêt maladie à leur goût. À terme, cela est inquiétant pour la sécurité des vols, déplore Nicolas Frick. Il est le vice-président du syndicat national des pilotes de ligne d'EasyJet.
Rien que le fait d'avoir eu cette idée de rompre avec la mesure phare d'EasyJet qui est la sécurité en premier point, ça peut mettre une graine dans la tête de certains pilotes qui pourraient se dire, alors que jusqu'à présent on est protégé, si jamais on se dit voilà, aujourd'hui je suis malade ou je suis fatigué, je ne peux pas venir travailler. EasyJet a toujours mis en avant le fait de respecter les manuels et de ne pas se présenter au travail, puisque c'était beaucoup plus sûr. Si maintenant les choses devaient changer et qu'un pilote devait mettre dans la balance, aujourd'hui je suis malade, je viens pas travailler, c'est pas sûr. D'un autre côté, je risque de perdre mon emploi. Si on commence à trop tergiverser, la sécurité s'en trouve menacée. Dans un avion, on est deux pilotes. Et c'est vrai que les deux pilotes doivent être en parfaite maîtrise de leur capacité. Dès lors que l'un d'eux se trouve fébrile, le bon sens fait qu'il faut rester là, il faut rester chez soi, se reposer, le temps de se remettre. Et une entreprise sérieuse ne mettra jamais aucune pression de ce genre sur un individu pour qu'il se pose la question, est-ce que je dois venir travailler ou pas? Mais voilà, là on a un changement de management qui fait que avec le Covid, ils essayent de changer les règles.
Nicolas Frick du SNPL EasyJet, propos recueillis par Hakim Kasmi. Les impôts de production qui pèsent sur les entreprises vont baisser de 20 milliards d'euros. La réduction se fera en deux fois, la moitié l'an prochain, le reste en 2022. Le gouvernement français veut ainsi tenter de relocaliser l'industrie. On ne sait pas encore dans le détail quels impôts de production seront concernés.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, le géant Apple et le gouvernement irlandais ont remporté une victoire hier.
Selon la justice européenne, Apple n'a pas bénéficié d'aide fiscale de la part de l'Irlande. Rappelons que l'entreprise américaine a installé son siège européen à Dublin. En première instance, Bruxelles avait estimé qu'Apple devait 13 milliards d'euros à l'État irlandais, qui lui considère que les profits n'ont pas à être taxés dans le pays, puisque les produits électroniques sont fabriqués ailleurs. Cette victoire ne fait pas l'unanimité. À Dublin, la correspondance d'Emeline Vin.
Côté gouvernement, c'est le soulagement. Dublin espère continuer d'attirer les multinationales et les investissements étrangers. Le ministre des Finances, Pascal Donohue, s'exprime juste après la publication du jugement.
Cette affaire a causé beaucoup de tort à la réputation de l'Irlande. L'Irlande n'accorde pas de traitement préférentiel à aucun contribuable. Cette décision nous innocente et confirme que l'impôt payé par Apple correspondait aux lois irlandaises.
Des lois qui ont depuis été réformées. L'opposition, de son côté, perçoit la décision comme une défaite pour l'État. Piers Doherty, chargé des finances au sein du Sinn Féin, sur la radio RTI.
Peut-être que c'est une belle journée pour le ministre, mais c'est une affreuse journée d'un point de vue moral. Le taux d'imposition d'Apple de 0,005% est considéré comme légal. Prenez les propriétaires de petits magasins, les coiffeurs, les petits entrepreneurs qui, eux, payent 12,5% d'impôts, ils vont voir rouge.
Les autres partis de gauche dénoncent un gâchis, alors que le déficit irlandais pourrait atteindre cette année les 30 milliards d'euros en raison de la pandémie.
Apple, Uber et d'autres entreprises ont vu leur compte Twitter piraté hier. Des personnalités américaines ont aussi été visées. Le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, l'ex-président Barack Obama ou encore Bill Gates, cofondateur de Microsoft. Des messages frauduleux invitaient les internautes à envoyer des bitcoins, un piratage massif aux crypto-monnaies. Le réseau social est en train de le résoudre. À chaque semaine son record, cette fois plus de 67 000 cas de Covid-19 ont été recensés aux États-Unis en une seule journée hier. Les contagions s'accélèrent dans le pays. Le président américain Donald Trump, très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, il vient de remanier son équipe de campagne chargée de le faire réélire en novembre. Il remplace son directeur à moins de 4 mois du scrutin. Environ une semaine après le début des violences au Mali et alors que les tensions sont toujours très vives, Paris se tient prudemment en retrait. La France a besoin de la stabilité politique au Mali dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le pays est secoué par un mouvement de contestation qui réclame le départ du pouvoir en place. Claude Guibal.
La France dehors, Barkhane dégage. En marge des émeutes de la semaine dernière, ces slogans qui rappellent à quel point la position de la France est plus que jamais délicate au Mali. Ce Mali où les soldats français avaient pourtant été accueillis en libérateur en 2012 lorsqu'ils avaient repoussé les djihadistes venus du Nord. Mais voilà, c'est bien le président Ibrahim Boubacar Keïta, le grand allié de la France de François Hollande, qui est conspué par la rue. Lui qui incarne pour nombre de Maliens la faillite de l'État rongé par la corruption, la mauvaise gouvernance, le népotisme. Lui qui incarne encore pour beaucoup le terrible bilan d'une armée malienne endeuillée par les attaques des djihadistes malgré la présence des soldats de Barkhane. Mais sans progrès politique, les progrès militaires ne servent à rien, répète-t-on depuis des mois dans l'entourage d'Emmanuel Macron, en regrettant le manque de volonté de Bamako à mettre en œuvre notamment les accords d'Alger censés permettre d'assainir le jeu politique malien. Pour autant, impossible pour Paris de lâcher son partenaire. La hantise de la France serait de voir un vide institutionnel au Mali, un vide qui ne ferait qu'ouvrir la voie aux djihadistes qui prospère précisément sur l'instabilité politique.
Et les opposants au pouvoir en place avaient prévu de se rassembler demain à Bamako en hommage aux victimes des affrontements. Au moins 11 personnes sont mortes, mais l'événement est reporté. À la place, des cérémonies seront organisées dans les lieux de culte un peu partout au Mali. En Russie, 140 manifestants ont été arrêtés dans la soirée après un rassemblement non autorisé organisé par l'opposition dans le centre de Moscou. Ils dénonçaient la révision de la Constitution. Elle donne notamment le droit à l'actuel président Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. La chaleur en Sibérie aurait été presque impossible sans le changement climatique, selon des chercheurs. Les températures sont en moyenne 5 degrés au-dessus de la normale depuis janvier. Sans le réchauffement, l'épisode sibérien des 6 derniers mois se produirait moins d'une fois tous les 80 000 ans, donc presque jamais. Les scientifiques rappellent qu'il reste peu de temps pour stabiliser le climat au niveau prévu par l'accord de Paris. En 2015, les signataires se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 voire 2 degrés de plus. Près de 70% des Français ont envie de lire plus cet été, un nombre en augmentation de 5% par rapport à l'an dernier selon la plateforme YouBooks. Le confinement peut-il expliquer cette hausse? Le reportage de Lina Taghi.
Retour à la lecture, c'est ce que constatent les professionnels du livre. Raphaël est libraire à Paris.
Je pense que le confinement a beaucoup joué. Dès le déconfinement, dès que j'ai réouvert, il y a eu de plus en plus de clients, plus que d'habitude, alors qu'il n'y a pas eu au début non plus beaucoup de sorties de nouveautés. Je pense qu'il y a eu un vrai besoin d'acheter, enfin de retrouver un mode de vie, on va dire, normal. Pendant 2 mois, moi aussi qui suis grand lecteur, pas lire de romans ou de BD pendant 2 mois, ça m'a vraiment manqué.
Un manque qui se ressent. Un Français sur deux prévoit ses lectures à l'avance pour cet été, selon ce sondage YouBooks. Lucille, gérante d'une librairie indépendante, constate aussi ce phénomène.
Il y a une espèce de frénésie autour du livre. Pour ce qui est de lecture cet été, effectivement, comme j'ai une impression que les vacances vont être peut-être plus calmes, plus proches, évidemment plus statiques, effectivement, il y a plus de gens qui prévoient des livres.
Plus de lectures pendant les vacances, mais l'enquête montre aussi que les Français se tournent de plus en plus vers le numérique. Rien d'inquiétant pour Sandrine, libraire à Paris. Les Français aiment toujours le papier.
Je trouve que ça stagne, moi, le numérique, en fait. Je vois pas ça progresser énormément. Mais bon, ça peut être aussi un effet du confinement, où ça a dû exploser, effectivement, pendant le confinement. Peut-être aussi que les gens ont appris à lire comme ça et que ça va favoriser ce mode de lecture. Mais ça reste quand même à mon avis, ça reste assez minoritaire.
Après la période difficile du confinement, les libraires sont globalement rassurés par le retour des lecteurs.
Lina Tagui. Le temps sera très nuageux aujourd'hui avec un peu de pluie sur le nord-est et le Pays basque. Du soleil en revanche dans le sud-est. Côté température, comptez 19 degrés à Cherbourg et Strasbourg, 24 à Paris, 23 degrés à Bordeaux, 26 à Grenoble et 30 degrés à Toulon.